Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller. J'espère que vous êtes en forme. C'est mercredi, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, et aujourd'hui on va parler d'un sujet important, oulalalala, important, très important, puisqu'on va parler de la première fois. Alors on va pas parler de la vôtre, hein, de première fois, on va parler de la première fois de nos enfants, comment on les accompagne, comment on les aide ou pas d'ailleurs, est-ce qu'ils ont forcément besoin de nous, si on en parle avec eux, qu'est-ce qu'on leur dit, comment faire de la prévention sans passer pour des vieux cons, parce que oui, c'est aussi une question à se poser. Donc nous allons tout d'abord écouter le témoignage de Chloé à ce sujet, et puis derrière on aura les bons conseils, prenez des notes, du docteur Catherine Solano. C'est parti pour le podcast des maternelles sur la première fois.
Évidemment, la première fois, étape importante, cruciale, les ados attendent. Évidemment, ce moment-là, ils y pensent tout le temps, on la redoute. Alors Chloé, vous avez 20 ans, merci beaucoup d'avoir le courage de venir aujourd'hui. Le témoignage est vraiment important et c'est vraiment sympa que vous reveniez sur cette période de votre vie. Pour vous, à l'adolescence, déjà, est-ce que parler de sexualité, c'était quelque chose de tabou ou est-ce que c'était plutôt au cœur des discussions avec vos amis à l'époque ?
C'est vrai que c'était très courant dans mon cercle amical de parler de sexualité. J'avais des amis qui parlaient très couramment, sans pudeur, de leur relation avec tel garçon, qui avait embrassé qui avait couché avec qui. Et de mon côté, je n'étais pas forcément pressée, j'étais très intéressée naturellement parce que j'étais dans mon début d'adolescence, donc les hormones en fusion. Mmh. Mais non, je n'étais pas, pressée. Mais par contre, j'entendais tout d'une oreille plutôt attentive. Et,
La parole était libre, en tout cas, entre vous. Et avec vos parents, est-ce que c'était un sujet que vous abordiez ?
J'ai commencé à parler de sexualité avec mes parents après avoir eu mes premiers rapports sexuels, tout simplement parce que j'étais dans cette idée de pudeur parent-enfant.
Mmh. Et eux ne venaient pas vers vous pour vous, pendant votre préadolescence, adolescence, pour vous parler, pour vous prévenir, pour vous accompagner. Il y avait une pudeur même à ce niveau-là.
Je pense que de leur côté, il y en avait une aussi. Mmh. Non, ils venaient pas forcément. Ils s'intéressaient à ma vie sentimentale, mais pas forcément à ma vie sexuelle. Je pense qu'ils se disaient que c'était peut-être pas forcément
C'est votre jardin secret.
Oui, et puis aussi pas forcément ce que j'allais explorer. À ce moment-là.
Mmh. Alors, à part les discussions avec vos amis, qui déjà sont importantes, ces échanges, est-ce que vous aviez, d'autres endroits où s'est fait votre éveil à la sexualité ?
Oui, dans le monde du porno, tout simplement.
Alors je vous arrête, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent dans cette émission. On se rend compte quand même que très, très tôt, Les ados, les enfants même, ont accès à la pornographie. C'était à quel âge, vous ?
Je pense que je devais avoir à peu près 14 ans, 13-14 ans.
Ouais, donc c'est super tôt.
Ah, mais c'est tellement simple. C'est tellement simple de chercher sur Internet ce qu'on aimerait voir. Et puis, il y a tout ce côté sur les réseaux sociaux qui mettent de plus en plus en avant des personnes, qui sont sexualisées dans les publicités, les films également, les clips musicaux. Mais de mon côté, ça s'est fait dans le monde de la pornographie. J'ai tout simplement, je me rappelle plus exactement, mais je pense que j'ai dû taper un nom que j'avais dû entendre par-ci, par-là dans mon groupe amical. Et je me suis, j'ai vu sous mes yeux un patatras de vidéos avec des milliers de personnes dans des milliers de positions différentes, avec un tas de titres qui, pour certains, apparemment, étaient assez alléchants. Mm-hmm. Et j'étais pas dégoûtée, j'étais pas forcément non plus gênée, je pense que j'étais juste dans une phase de curiosité et je me suis demandé est-ce que ça me ferait mal, est-ce que c'est ce que j'aimerais, est-ce que ça j'oserais.
Mais vous vous êtes dit en voyant ça, c'est la réalité ?
Non.
C'est ce que j'imagine ?
Non,
pas que c'est ? Vous êtes tout de suite dit, je sais que c'est pas ça, quoi.
Alors, je me suis pas dit, je sais que c'est pas ça. Je savais qu'il y avait tout de même toute une mise en scène derrière, du jeu des acteurs, de la production, du plateau, des scénarios, des scripts, tout ça à prendre. Je savais que les cris étaient faux, qu'il y avait beaucoup de simulations. Maintenant, je me suis quand même demandé, est-ce que leur plaisir artificiel, est-ce que moi, je ressentirais ça, mais de façon réelle, une fois que j'aurais une relation sexuelle.
C'est pas ces images-là, ce que vous avez perçu de la pornographie, c'était pas vos aspirations
à ce moment-là. C'est pas comme ça quand même que vous imaginez votre première fois.
Non, non, pas du tout, non. Ben, dans la pornographie, des images que j'en ai et que j'en ai de maintenant quand j'y pense et que j'en avais sûrement à l'époque, c'est que c'est quand même très, comment dire, c'est quand même très, très, très sauvage. Il y a beaucoup de, il y a absolument pas de, de pudeur et moi je sais que j'étais quand même quelqu'un d'assez qui aime l'intimité, qui aime avoir son jardin secret. J'aspirais à quelque chose de beaucoup plus doux et surtout de quelque chose avec quelqu'un que j'aimerais, qui m'aimerait. Et voilà.
Quand vous avez vu vos premières images pornographiques à 13-14 ans, ça vous a choqué? Ça vous a traumatisé? Vous vous souvenez d'un choc quand même ou pas du tout?
Non, non, pas du tout.
Bah ça me rassure en tant que mère que ça vous ait pas, que vous ayez eu en tout cas le recul et la perspective pour vous dire ok, bon, c'est pas forcément la vraie vie. Alors, votre première fois, vous, comment ça s'est passé, dans quelles conditions?
Alors, j'ai fait ma première fois avec une fille, ma première copine à 17 ans. Et c'est une expérience qui s'est extrêmement bien passée. Je me souviens que ça avait duré tout un après-midi parce qu'il y avait toute cette phase de découverte. C'est la première fois pour l'une et pour l'autre qu'on voyait une personne nue et qu'on touchait une personne nue, qu'on respirait, qu'on goûtait une personne nue. Donc, c'était un contexte qui a été très doux, qui a été fait dans une... vraiment dans une dynamique de confiance, de respect de soi et de l'autre.
Vous étiez amoureuse?
J'étais très amoureuse et je pense qu'après ça, j'ai été encore plus amoureuse et sûrement inversement. Voilà, on n'était pas vraiment dans cette idée d'avoir du plaisir, mais plus dans cette idée de... On a du désir et on prend le temps de se découvrir. Mmh. Voilà.
Et alors, vous avez eu une deuxième première fois, entre guillemets, avec un homme, cette fois?
Avec mon partenaire actuel. C'est vrai que j'ai tendance à dire que j'en ai eu deux parce que ce sont des expériences qui ont été très différentes du fait que ça a été avec une fille puis avec un homme. Et le contexte a été plus ou moins le même dans le sens où j'étais très amoureuse également. Et oui, le respect était là, tout comme la confiance. Et là,
alors lui, il savait que vous aviez eu une première fois avec une jeune fille.
Oui.
Et ça s'est bien passé parce que c'est une découverte totalement différente, forcément, quand c'est avec un garçon.
En fait, j'étais plutôt à l'aise parce que finalement, j'avais vu auparavant d'autres personnes nues entre ma première amoureuse et mon compagnon actuel. Donc, j'avais pas vécu qu'une expérience sexuelle. Mais c'est vrai que de voir un homme nu pour la première fois, moi qui étais un peu craintive, en fait, ça s'est très bien passé parce que j'étais avec quelqu'un qui m'a mise en confiance et voilà.
Vous en gardez un bon souvenir ?
Des deux fois, oui. Très bon souvenir.
Bon. Est-ce que vous pensez que les premières fois ont eu un impact sur votre vie sexuelle actuelle? Est-ce que vous pensez que ça a été à ce point important qu'aujourd'hui, ça vous a aidé à avoir une sexualité épanouie?
Étant donné que j'ai absolument que des bons souvenirs de ces premières fois, je pense que oui. En fait, je suis super contente reconnaissante envers ces personnes d'avoir passé des aussi bons moments. Et actuellement, avec mon compagnon, on a une sexualité qui est très épanouie. Et je pense qu'on a en fait mis, tout simplement, dès notre première fois, les bases de ce qu'on attendait de l'un et de l'autre dans le contexte sexuel, c'est-à-dire du respect, de la confiance. S'il y a un problème, on se le dit. On ne fait rien qui pourrait nous mettre mal à l'aise ou qui pourrait nous faire mal. Et si c'est le cas, parce que ça peut arriver, qu'on est mal, on se le dit également. Mmh.
Et après coup, vous avez analysé pourquoi est-ce que vous aviez fait ces deux premières fois, d'abord avec une fille, ensuite avec un garçon. Est-ce que vous vous êtes dit, bah, tiens, ça, qu'est-ce que ça dit de ma sexualité? Vous êtes posé ces questions?
Je pense qu'en fait, j'ai surtout été prise premièrement par des femmes plutôt que par un homme. C'est surtout le contexte sentimental qui a fait que le contexte sexuel s'est avant tout tourné vers des expériences avec des femmes.
Oui, c'est l'amour qui a fait la différence.
Oui, c'est l'amour, en fait, tout simplement. Et puis aussi, c'est vrai que j'étais assez craintive du corps, de l'anatomie masculine. Donc, je pense que ça s'est entré en jeu également.
Voilà, vous avez fait step by step. Du
exactement.
Coup. Vous en avez parlé à vos parents. Vous leur avez dit que vous n'étiez plus vierge ou vous l'avez gardé pour vous?
Je ne l'ai pas formulé comme ça. Je ne l'ai pas non plus expliqué, enfin dit, dès que la chose a été faite. Ça s'est fait plus tard dans le temps, au fur et à mesure de mes relations. Et j'avais de mon père plutôt des conseils par rapport à mes relations sentimentales qui me disaient qu'il faut que que je continue à me faire passer avant l'autre. Et du côté de ma mère, c'est vrai que j'ai eu ce courage et cette volonté de lui faire part de mes pratiques sexuelles pour certaines. Et voilà.
Alors évidemment, on a tous vécu cette première fois. On se souvient tous de la peur, de ce que ça peut être. On s'imagine des trucs. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes ados qui nous regardent et qui s'inquiètent, qui s'angoissent à cette idée?
Je pense que je leur dirais qu'autant soit une fille ou un garçon, qu'il faut prendre son temps, ne pas être stressé, ne pas être speedé par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment dans les films. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à vouloir expérimenter la chose très tôt, sans forcément être prêt. Je leur dirais voilà, de prendre le temps de se sentir prêt, de s'assurer que la personne en face se sent très prête et de rien faire qui pourrait les mettre en danger, qui pourrait leur faire ressentir un éventuel malaise.
Ne pas faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire.
Exactement.
Donc ça parle de consentement aussi. J'imagine que c'est un sujet important pour
vous. Oui, bien sûr. Et je pense que je leur dirais aussi que s'il y a un problème sur le moment, si on sent qu'on est trop, je sais pas, sec, par exemple au niveau de la muqueuse vaginale, si en fait on n'a plus du tout envie, de le dire posément, sans stresser et peut-être revenir sur l'envie de coucher un peu plus tard.
On a préféré avoir la meilleure d'Europe de l'Ouest pour vous accompagner. C'est le docteur Catherine Solano.
Bonjour,
merci
Agathe,
d'être là. Mais c'est vrai, docteur, vous êtes, à chaque fois que vous êtes venu dans cette émission, vous nous aidez concrètement, nous parents, parce que ce sont des sujets en fonction de sa propre histoire, en fonction de sa pudeur, etc., qu'on a parfois du mal à aborder. Et donc, c'est vachement important d'avoir des outils pour le faire. Alors, vous êtes médecin, sexologue et andrologue. Vous êtes l'auteur du livre Le Grand Livre de la Puberté. Je vous recommande vraiment, parce que c'est une base quand on est parent d'avoir ça à la maison. C'est aux éditions Robert Lafont. Pourquoi est-ce que la première fois, c'est une telle source d'angoisse chez les adolescents, qu'on soit fille ou garçon? Moi, je me souviens, mais ça me prenait la tête, mais c'était dingue. Benjamin Muller, évidemment, aussi.
Non, moi, c'était fluide.
Il était sûr de lui.
Moi, ça ne m'a pas fait ça, vous voyez, c'est marrant.
Ah bon, oui. Vous étiez détente, vous, mais forcément, c'est parce que c'était votre vocation.
Non, mais c'est surtout parce que je n'ai pas commencé très tôt aussi, j'ai eu le temps de...
Alors que moi...
Vous voyez, donc, non, mais je pense que c'est la peur de l'inconnu, déjà.
Oui, c'est ça, mais d'être nul, de ne pas être aimé, de se dévoiler.
Voilà, et je pense que dans le fond, c'est la peur de ne pas être aimé, de ne pas être comme il faut, que l'autre vous juge mal et de vous dire « je suis vraiment nulle », de le ou elle, hein, soit garçon ou fille. Je crois que c'est ça. Après, les garçons ont très peur du côté mécanique. Mmh. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, c'est un challenge. Hein. Ils se disent, mais si je n'y arrive pas, si je n'ai pas d'érection, si je n'arrive pas à trouver l'ouverture, ça va être la catastrophe. Et comme c'est quand même une question de virilité, ils vont se dire, mais je ne suis pas un homme, je suis un homme raté. Donc ça, c'est difficile.
Et qu'est-ce qu'elle va penser,
ouais,
etc.
Ouais.
Après, alors, les filles, il y a la douleur aussi.
Les filles ont peur. Déjà, on peur qu'on ne les trouve pas belles. Mes seins sont trop petits, trop gros, mes pieds trop grands, je ne sais pas, ou autre chose. Hein.
Bah, je suis grosse, mes seins sont trop petits.
Enfin, ouais, voilà. Oui. Donc, elles ont peur de ne pas être assez belles, pas assez désirées, que ça ne marche pas à cause d'elles. Parce que si un garçon a une panne, elles se disent, il ne m'a pas trouvée belle. Voilà. Et elles ont peur d'avoir mal et de saigner aussi, évidemment, parce qu'on leur a dit que ça pouvait faire mal et saigner. Et puis, une chose dont on parle moins, qui fait une énorme différence entre les garçons et les filles, c'est que je pense qu'elles ont conscience dans leur corps qu'un rapport sexuel, c'est une possibilité de grossesse. Et ça, les garçons, eux, pour eux, c'est plus une expérience. Souvent, ils ne pensent pas tellement à ça, d'ailleurs. Voilà, donc il y a quand même une différence très importante. Et je veux dire, même avec une contraception. Parce qu'il y a des échecs, et ça ne marche pas à 100%, la contraception. Donc, c'est quand même un acte qui a une portée importante. Et les filles le sentent plus, je pense.
Et une question intéressante, pour aller un peu plus loin encore, de Léa, regardez.
Bonjour, je m'appelle Léa, et ma question, c'était, est-ce que la première fois est perçue de la même manière par les filles que par les garçons?
Là, on a parlé des peurs d'avant, mais une fois que ça a été fait, est-ce que généralement c'est perçu pareil?
Alors, une fois que c'est fait, ben, ça dépend comment ça s'est passé. C'est beaucoup ça. Je pense que la perception différente, c'est plus avant qu'après.
D'accord.
Parce qu'après, c'est une expérience partagée.
Est-ce qu'on n'est pas souvent déçu de la première fois?
Ben, on est déçu. C'est une question très intéressante si on attendait trop. Vous voyez,
ouais,
si on se dit...
On attend quand même beaucoup
dans la vie.
Ouais, mais on attend quand même
beaucoup. On attend forcément beaucoup quand même de la première fois. Alors, est-ce que vraiment on pense au plaisir ou est-ce qu'on pense au
Il faut le faire.
Je pense que tous les ados se disent, de toute façon, c'est un passage obligé. Ouais, après ça, c'est fait.
Je pense justement, c'est une question intéressante, parce qu'il ne faut pas le faire trop tôt, parce que si on le fait trop tôt, d'abord, on a beaucoup plus peur. Donc, plus on a peur, moins on est à la hauteur. Par exemple, la peur, c'est anti-érection. Donc, un garçon qui a très peur, il a beaucoup plus de risques d'avoir une panne, par exemple. Une fille qui a très peur, elle a beaucoup plus de risques d'avoir une contraction du vagin et que ça ne marche pas, que ça ne rentre pas. Donc, c'est pour ça que ce que je peux dire, c'est que les premières fois les plus réussies, il y a eu des études là-dessus, hein. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a eu, c'est Didier Le Gall et Charlotte Levan qui ont écrit un livre en interviewant des étudiants à l'université, en leur demandant comment s'est passée votre première fois. Et ceux qui disaient, c'est bien passé, c'est qu'ils étaient dans une relation de plusieurs mois avant et plusieurs mois après. Et ils expliquent qu'en fait, même si la première fois n'est pas très réussie dans ce contexte, les deux personnes se disent, on a raté, mais on n'est pas plus bête que les autres, ça va finir par marcher, et ils finissent par y arriver. Du coup, ils en gardent un bon souvenir.
Dans la durée, alors, quoi.
Ouais. Voilà. Alors que si c'est une histoire, quelqu'un qui se dit, je dois faire une expérience, super, j'ai trouvé un garçon, une fille qui veut bien essayer avec moi, si c'est raté, par exemple que la pénétration ne peut pas se faire, ou qu'on a mal, ou que ça ne se passe pas bien, on en garde un très mauvais souvenir. Ouais. Et ça, ça peut être très grave.
Je me souviens de Jacques Chirac qui avait raconté dans un documentaire que sa première fois, c'était son père qui l'avait emmené voir une fille de petite vertu. Oh, ouais. Et c'était quand même une autre époque. Mais vous imaginez la pression pour le petit Jacques Chirac. Bon, je pense qu'il s'en est bien remis. Ah,
ça, c'était horrible. C'est qu'autrefois, 50% des hommes avaient leur première fois avec une prostituée. Maintenant, dans les dernières statistiques qui ont plus de 10 ans, c'est 0%.
Oui, ça
donc
plus, ça.
Ça, je trouve ça génial comme changement quand même.
Catherine nous dit, côté parents, comment fait-on pour libérer la parole sur la première fois, sachant que souvent, les adolescents peuvent trouver ça gênant d'en parler avec nous? Comment on démarre ça?
Voilà. Alors, l'idéal, c'est d'en parler bien avant qu'ils soient en âge de la première fois. Parce qu'effectivement, donc, je trouve que les meilleurs âges, c'est 6e, 5e. Pour vous donner une idée. Parce
même qu'ils à ce moment-là, ils peuvent nous dire « Attends, de quoi tu me parles ?»
Oui, ben justement, à cet âge-là, si c'est avant la puberté, ils ne sont pas tellement gênés, ça les intéresse. D'ailleurs, c'est vrai que les garçons, souvent, sont assez à l'aise parce qu'ils ne sont pas encore tellement travaillés, si on peut dire, par leurs hormones, émotionnellement. Les filles sont peut-être un peu plus précoces au niveau puberté, du coup, c'est moins évident. Mais plus c'est jeune, plus c'est facile parce que ça les intéresse.
D'accord.
Voilà. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est de leur faire lire des livres.
Mais ça, on n'est jamais sûr qu'ils les lisent, alors.
Non, c'est... Oh, bah, je peux vous dire que c'est le genre de livre...
Ils lisent peut-être pas le reste, mais
oui,
ça...
voilà. Ensuite, je trouve que ce qui est très important, c'est que souvent, on ne sait pas quoi dire. Donc, voilà. Et ce qu'il faut déjà dire, c'est, tu sais, je voudrais t'en parler... Je ne sais pas trop quoi te dire, admettons qu'on ne sache pas quoi dire, mais j'ai envie que ça se passe bien pour toi et que tu sois heureux dans ta vie amoureuse et sexuelle. Rien que de dire ça, c'est très important parce que ça veut dire que la sexualité, ça fait partie de la vie, c'est naturel et qu'on peut être heureux. Et c'est déjà un... Parce que si vous voulez, moi j'entends tellement de gens qui me disent « on n'en a jamais parlé, c'est comme si ça n'existait pas » ou « on zappait la télé si quelqu'un s'embrassait », des choses comme ça.
Oui.
Vous vous dites au moins dire « ça fait partie de la vie ».
Non, mais après, ça dépend aussi des cultures qu'il y a à la maison. Forcément, moi, qui suis d'origine maghrébine, bon, bah, là, c'était quelque chose dont on parlait pas du tout. J'ose espérer que ça ait progressé entre-temps, mais il n'empêche que quand on va s'adresser à son ado ou à son pré-ado, comme vous dites, on aborde quoi? Le côté technique, le côté, on se protège, ou on rentre dans les détails?
Déjà, alors, on ne rentre pas tellement dans les détails, mais ce qui est le plus important, à mon sens, c'est de dire... il faut se sentir respecté. Il ne faut jamais sentir que l'autre vous considère comme un objet. Il ne faut le faire que si on en a envie. Il faut oser dire non, oser dire je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête, parce qu'on a souvent l'impression que c'est les garçons qui poussent les filles, ce qui est vrai souvent, mais ça peut être l'inverse aussi. Il y a des garçons qui disent, même hier en consultation, j'ai eu un patient qui m'a dit ça. Moi, ma première fois, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais complètement paniquée parce que j'avais une copine, mais je ne pensais pas. Vous voyez ? Donc, il faut vraiment respecter l'autre. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a les questions techniques, je dirais, de protection. Enfin, il y a aussi une autre chose avant ça, c'est de dire on n'est pas obligé d'avoir des rapports sexuels pour être heureux et se donner du plaisir, être bien ensemble. Et très souvent, il y a des couples qui peuvent être ensemble pendant un an, pendant plusieurs mois, un an, sans avoir de rapport sexuel avec pénétration.
Ah voilà, c'est de la pénétration.
Voilà. Mais avec toutes sortes de câlins, toutes sortes de caresses, de baisers, etc. Et on peut avoir beaucoup de plaisir comme ça et on n'a aucun risque de grossesse, d'infection sexuellement transmissible, etc. Et du coup, on n'a pas besoin d'être supervisé par des médecins ou par quelqu'un ou une sage-femme ou le planning familial. Et du coup, ça donne une liberté assez longue. Et souvent, en plus, mes patients me disent que ce sont les meilleurs moments de ma vie sexuelle, les meilleurs souvenirs en tout cas. Parce que c'était génial, petit à petit, on se découvrait. Je trouve que c'est important de dire ça aux jeunes, qu'on n'est pas obligé directement de passer à l'acte. Ça me semble vraiment important.
Oui, ça, je retiens. Yacine, je peux vous poser une question personnelle, mais pas trop, vous inquiétez pas. Est-ce que c'était un manque pour vous de ne pas pouvoir justement en parler à vos parents, pas pouvoir, que la parole ne soit pas libérée à ce niveau-là?
Non, c'est sûr, bah, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que ce soit moi ou que ce soit d'autres qui ont été dans ma situation, c'était interdit.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est pas une question de ne pas pouvoir en parler, c'est que c'était interdit.
On n'a pas le droit de le faire, de toute façon.
On n'a pas le droit de le faire avant le mariage.
Je vais vous dire quelque chose. Même, imaginez des parents qui se disent « on ne doit pas le faire avant le mariage ». À la limite, c'est respectable, on a le droit de penser ce qu'on veut. On peut dire ça à ses... Enfin, on peut pas dire ça à ses enfants. On peut dire à ses enfants, moi, je pense qu'il faut pas le faire avant le mariage. C'est mon droit de penser ce que je veux. Ouais. Mais de leur dire pourquoi. C'est ça, parce que je connais aussi des parents qui disent pas avant 16 ans. J'ai des patients qui m'ont dit qu'est-ce qui se passe dans la nuit de 15 à 16 ans. Mais pourquoi ne pas... Après tout, si on le pense, on a le droit d'avoir ses opinions. Dire, mais parce que je trouve qu'on n'est pas assez mature. Tu vois qu'il faut être suffisamment adulte. Et à 15 ans, on est trop jeune. À 16, 17 ans, par exemple. On a le droit de penser ce qu'on veut, mais il faut dire pourquoi. Parce que ça fait réfléchir l'enfant. Par exemple, des parents qui disent « Moi aussi, j'étais d'une famille où on m'a dit « Je suis d'une famille catholique, pas avant le mariage, on m'a dit ça. » Mais je trouve que si on vous dit...
Mais le problème, c'est la sexualité et le plaisir. Et en fait, on interdit la sexualité avant le mariage, mais il faut peut-être autoriser le plaisir d'autres choses avant. Voilà, bon, après... Enfin, c'est ça, l'interdiction de tout ça, c'est compliqué.
Voilà, en plus, je trouve qu'on n'a pas à interdire des choses à ses enfants. Si, quand ils sont petits, il faut leur interdire de traverser la route sans regarder, etc. Mais on doit leur apprendre à trouver leur éthique à eux, à se dire, moi, j'estime que c'est vrai que la sexualité, par exemple, c'est quelque chose d'important, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais que ça soit de l'intérieur, pas que ça soit un interdit extérieur. S'ils se disent, moi, je ne dois pas faire l'amour avec quelqu'un qui ne me respecte pas, bah, c'est bien, évidemment. Mais on ne peut pas leur imposer de l'extérieur parce que c'est pas... il faut avoir une colonne vertébrale, quoi, pas un... je ne sais pas comment vous dire, un bouclier, en fait, pour la sexualité. Je trouve ça, c'est important. Et puis, il y a une chose que je veux dire pour les parents, c'est qu'il Il faut aussi dire à ses enfants, le jour où tu sauras que tu vas bientôt avoir des rapports sexuels, il faut aller au planning familial ou chez un gynécologue avec ta copine si tu es un garçon. Il ne faut pas dire ça seulement aux filles. Parce que souvent, on le dit aux filles, bon, parce qu'on se dit... Il ne faudrait pas qu'elle se trouve enceinte, et c'est respectable. Mais il faut le dire aux garçons aussi. Je trouve ça vraiment important que le jeune couple s'occupe de sa contraception ensemble, parce qu'on est deux à faire un bébé, on est deux pas en faire aussi. Quoi. C'est vraiment important. Ça, je trouve que c'est un peu en progrès. Ce n'est pas tout le monde encore, mais ça vient. Et c'est souvent les mamans qui le disent, pas tellement souvent les pères.
Alors, je trouve que les pères doivent s'impliquer, c'est très important.
Aussi, une autre chose qu'il faut dire, je trouve, c'est dire, écoute, il y a des fois des moments difficiles dans la sexualité. Si dans ton entourage, tu as une copine ou un copain qui a peur d'être enceinte, qui a un problème ou qui est enceinte et tout, vous pouvez m'en parler. Je peux vous acheter des préservatifs, une pilule du lendemain, un test de grossesse. Je trouve ça très important. On ne dit pas à son enfant si tu es enceinte ou si ta copine est enceinte, dis-le-moi. On leur dit si quelqu'un... Parce que si tous les parents faisaient ça, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui, par exemple, ont peur d'être enceintes, n'en parleraient pas à leur mère, mais peut-être à la mère d'une copine.
C'est ça. Oui,
et
c'est
du
vrai.
Coup, on est... tous les parents sont co-responsables des enfants. Moi, ça m'est arrivé d'avoir mes enfants qui me disent ça. Donc, j'ai... Bon... Voilà, et je me suis dit, moi, je me suis sentie utile, vous voyez, dans ces cas-là. Hein.
Bien
donc,
sûr.
Ça, je trouve ça important aussi. Ouais.
Caroline nous dit, je suis maman isolée d'un ado de 14 ans. Comment lui parler de sa première fois? Car c'est délicat dans le sens maman-garçon.
Oui, c'est vrai que c'est délicat. Mais il faut qu'elle lui dise, tout simplement, écoute, voilà, pour moi, la première fois, c'est quelque chose de très important, pour un garçon aussi. Sache que c'est pas évident pour moi de t'en parler, mais j'ai envie que ça se passe bien. Si tu as des questions, tu peux me les poser. Sache aussi que même si les filles peuvent aller au planning familial, les garçons aussi peuvent y aller pour poser des questions. Ou je peux t'acheter un livre si tu veux, ou parle-en à ton père aussi. Si elle est maman isolée, il a peut-être un... Mais enfin, si elle est maman isolée, son père a peut-être disparu. Ou peut-être aussi trouver un homme de l'entourage qui peut en parler, vous voyez, ou un médecin.
Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Arnaud Pfersdorf, le pédiatre de cette émission, dit que lui, il parle régulièrement de ces sujets avec ses patients et ses patientes pour qui c'est trop compliqué pour les parents. C'est quand même pas mal. On ferme la porte et on pose toutes les questions à son pédiatre.
Ah bah oui, exactement. Parce que les pédiatres, ils suivent les enfants jusqu'à 16 ans.
Jusqu'à 16 ans.
Et 16 ans, c'est un âge où ça vous intéresse beaucoup de penser à la première fois, tout à fait.
Vous parlez de livres. On peut laisser traîner un livre ou dans la bibliothèque. Moi, il y avait toujours... J'ai appris comme ça. Il y a deux livres comme ça qui apprenaient l'anatomie féminine et tout.
Oui,
on
ne
disait rien.
Voilà. Oui, quand on n'est pas capable de parler ce qui est respectable, c'est super.
Mais on peut même leur dire, le jour où ça t'intéressera, tu lis ça. C'est vrai que beaucoup de parents disent, les enfants disent, et puis en fait, on s'aperçoit que...
Il a bougé dans la maison. Et puis un jour...
Voilà, à un moment, ça les intéresse.
Alors, il y a une question de Luna qui nous dit « Ma première fois à 15 ans a été catastrophique, je me suis forcée, c'était il y a 3 ans, et j'ai eu une absence de désir récurrent. Est-ce normal et comment y remédier ?» C'est très important, ça.
Alors, ce qui est important dans ce qu'elle dit, c'est « je me suis forcée ».
Oui.
Donc, il ne faut jamais se forcer. Et puis, moi, j'en arrive à me dire, bon, vous allez trouver ça peut-être exagéré, mais on peut quasiment se violer soi-même, quoi. Parce qu'à la limite, si elle dit « je suis d'accord », à son copain, mais qu'elle se force, c'est elle-même qui se fait du mal toute seule. Donc, il ne faut jamais se forcer parce que ça laisse, si vous voulez, la première fois, dans tous les domaines d'ailleurs, ça laisse une empreinte. Quand ça se passe mal, ça peut laisser une empreinte et votre cerveau se dit au secours, warning, au secours, au secours, au secours, quand un nouvel événement qui ressemble au premier se produit. C'est-à-dire que son corps lui dit non, 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 il ne faut surtout pas...
Mais du coup, comment elle fait pour y remédier ?
Alors, d'abord, il faut rencontrer quelqu'un qui soit extrêmement respectueux et qu'elle-même, elle se respecte. Et puis, si c'est difficile, eh bien, il faut consulter parce que moi, j'ai malheureusement plein de personnes dans ce cas-là en consultation, hommes ou femmes, des hommes à qui on a dit pas de bol, je suis tombée sur un impuissant la première fois parce qu'en mettant un préservatif, il a eu un petit moment de flou, comme il m'a dit. Ça peut être parce qu'on s'est moqué de vous parce que ça ne marchait pas. Ou on dit, ma peau fine est frigide. La première fois, quelqu'un qui n'a pas de plaisir, c'est quand même assez fréquent. Il n'y a que 5% des filles qui ont un orgasme la première fois.
Il faudrait qu'elle consulte. Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle en parle franchement à la personne avec qui elle a envie d'avoir des rapports ?
Ah bah si, si, vous avez raison, qu'elle lui dise, tu sais, j'ai une première fois complètement ratée. Maintenant, j'ai très peur et j'ai même pas envie tellement j'ai peur. Parce que ce qui se passe, c'est qu'elle a sans doute tellement peur que son désir, il est, même s'il est là, il se voit pas. Donc, si la peur diminue, hop, le désir réapparaît. Et moi, ce que je fais pour ce genre de cas, c'est de l'EMDR. Donc, c'est une technique de thérapie pour les traumatismes. On lui dirait, fermez vos yeux, pensez à cette première fois qui s'est mal passée. Qu'est-ce que ça vous fait d'y penser maintenant ? Et on travaille sur le souvenir pour que le cerveau l'intègre de manière... naturel et classe ça comme du passé et que le cerveau se dise pas attention, t'es toujours en danger que ça recommence.
Merci beaucoup docteur Catherine Solano, c'est toujours très enrichissant d'écouter ces conseils et merci à Chloé d'être venue nous voir jusqu'à la maison des maternelles. Nous, vous savez quoi, on se retrouve demain sur France 2 à 9h28. Si vous le souhaitez, en podcast avant, après, quand vous voulez, et bien sûr sur les réseaux sociaux de l'émission ou sur nos propres réseaux sociaux. Ciao tout le monde.